BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. On est ensemble pendant une demi-heure. Au sommaire, le modèle militaire peut inspirer le management en entreprise. C'est le DRH de l'usine Bosch de Rodez qui vient nous expliquer ça dans un instant. Dans cette émission, on répond aussi aux questions que vous nous envoyez. Et aujourd'hui, c'est avec vous, Camille Bourg. Bienvenue.
Questions que vous nous envoyez sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On appelle aujourd'hui l'avocate Valérie Memoun-Hayat pour parler de rupture conventionnelle.
Gros dossier à suivre aussi dans cette émission. On va parler de l'importance des pauses dans une carrière avec nos deux invités entrepreneurs qui viennent témoigner sur notre plateau. Sans oublier, en fin d'émission, la carte blanche de Yannick Mercieris qui va faire l'éloge de la sieste au travail. Vous verrez ça. Merci d'être avec nous. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
DRH et ancien officier de l'armée de terre. Bonjour Benoît Courtin.
Bonjour.
Merci d'être dans Happy Boulot. Vous êtes DRH donc de l'usine Bosch de Rodez. Et si vous êtes là aussi aujourd'hui avec nous, que vous nous faites ce plaisir sur BFM Business, c'est que vous êtes très bien placé pour nous éclairer sur le sujet du jour, ce que le modèle militaire peut apporter dans le management dans les entreprises. D'abord, vous pouvez peut-être nous expliquer ce qui vous a donné envie là, de passer d'officier à DRH, parce que c'est pas commun.
Ah oui, complètement, puisque ma carrière, c'était véritablement un sacerdoce à Saint-Cyr, puis une dizaine d'années dans les régiments, pas mal d'opérations extérieures, la préparation de l'école de guerre. Et un soir, j'ai réalisé que ce n'était pas cela dont j'avais envie pour les 20 prochaines années. Je souhaitais travailler dans les ressources humaines, j'étais scientifique de formation, être dans un environnement opérationnel, une usine, et le secteur automobile m'intéressait. Donc Bosch m'a ouvert les bras pour devenir DRH.
Ouais, il a fallu vous former, ou en fait, l'école militaire, vous avez déjà tout appris?
Alors, je ne vous cache pas que la nuit précédant mon embauche, j'ai pas beaucoup dormi et je me posais la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils m'avaient recruté et qu'est-ce que j'allais pouvoir leur apporter.
Mais c'est eux qui sont venus vers vous ou c'est vous qui avez postulé?
C'est un hasard complet de circonstances, c'est un cheminement et c'est en tout cas l'ouverture d'esprit du DRH France, Dominique Olivier et de la direction du site qui ont permis de franchir le cap parce que c'est quand même un véritable pari que d'embaucher un ancien militaire.
Donc, premier jour pas facile et puis finalement très à l'aise.
Très à l'aise, effectivement, je me suis aperçu quand même rapidement que la formation que j'avais pu avoir à Saint-Cyr et tout ce que j'avais su développer comme compétences durant toutes ces années en management, mais également en process RH, en excellence opérationnelle RH, me servait et me sert aujourd'hui au quotidien. Il n'y a pas une seule journée où je ne me sers pas de cette expérience militaire.
Bon, Saint-Cyr, en même temps, formation d'excellence. On le sait très bien aussi, c'est aussi pour ça que c'est une école très, très reconnue, un parcours très reconnu. Benoît Courtin, qu'est-ce qui vous sert dans votre carrière, justement, soyons très concrets, aujourd'hui, à ce poste que vous occupez là, de DRH chez Bosch, d'une usine à Rodez?
Complètement. L'idée reçue sur les militaires, c'est chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Depuis 98, c'est commander avec le cœur pour être obéi d'amitié. Et en réalité, lorsque vous dites ça, c'est le modèle responsabilisant, c'est le modèle libéré. Donc là, ce qui me sert au quotidien, c'est cette capacité dans l'ADN des militaires à donner du sens à l'action, à proposer une vision en entreprise qui parfois peut être très floue. Chez les militaires, c'est un effet opérationnel attendu dans un cadre espace-temps.
Vous faites bien de le préciser parce qu'effectivement, quand on rapproche les mots militaire et management, on se dit spontanément que ça va pas faire bon ménage. On va penser plus à l'autorité, à quelque chose de même très autoritaire, plutôt qu'à la bienveillance, etc. Enfin, les valeurs qu'on met quand même beaucoup en avant, peut-être parfois trop, enfin c'est un autre débat, dans les entreprises, quoi.
Oui, alors le leader dans le système militaire est avant tout un importateur de stress et un exportateur d'énergie. C'est la première parole qu'a eu mon capitaine lorsque je suis arrivé en régiment. Donc, donner du sens, donner de la vision et effectivement entretenir des qualités humaines fortes au quotidien, c'est ce qui aide vraiment en management également.
Parce qu'en préparant l'interview, je me suis dit effectivement, qu'est-ce que je mettrais du côté négatif, entre guillemets, mais voilà, ça va être plutôt ça, attention à ne pas être trop autoritaire dans l'entreprise quand on vient d'un parcours militaire. En même temps, l'armée, l'image aussi que l'armée cherche à véhiculer, c'est l'engagement, le dévouement, l'unité. Ça, c'est des valeurs que vous avez apprises et que vous arrivez à mettre en œuvre dans votre métier aujourd'hui.
Oui, ce sont des valeurs, bien sûr, qu'on a développées. le mot autorité n'est pas un gros mot. Dans l'armée comme en entreprise, ce qui est gênant, c'est quand vous avez, on dirait l'armée du caporalisme ou du chefaillon. Là, c'est déjà plus ennuyeux.
On parlait, juste parenthèse, mais de l'autorité la semaine précédente dans cette émission. Je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast pour ceux que ça intéresse. Quelle méthode de l'armée, alors, on peut transposer à l'entreprise? Est-ce que vous auriez un ou deux cas concrets comme ça, sur lesquels vous avez pu travailler grâce à votre expérience?
Le meilleur cas concret, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le travail collaboratif. Que vous soyez en train de construire un ordre d'opération ou en entreprise de co-construire une feuille de route, par exemple, ce que je fais dans mon département RH depuis 2008, et c'est vrai qu'on m'avait vu avec des yeux d'extraterrestre lorsque j'ai commencé à faire ça, de réunir toute l'équipe, on était 24 à l'époque, et de co-construire cette feuille RH, tourner vers une vision, tourner toujours vers cet effet, et c'est à mon sens ce que l'on attend de la part de dirigeants.
Est-ce qu'on résiste mieux au choc des crises quand on a en soi ces valeurs militaires ?
Les valeurs militaires, mais également les savoir-faire en matière de gestion de crise. Il y a notamment une différence, à mon sens, fondamentale entre ce qui se fait en entreprise et dans le domaine militaire. Les militaires imaginent toujours ce qui pourrait arriver différemment du plan d'opération proposé. C'est ce qui s'appelle la manœuvre future, et propose une modélisation de l'ordre avec en permanence des ordres en cours d'action qui permettent d'utiliser le variantement. Et pour moi, ça, quand on parle de management de l'incertitude, parfois utilisé et parfois galvaudé. Le management de l'incertitude, c'est la maîtrise des peurs, et on sécurise l'adaptation, et on sécurise l'activité par l'adaptation permanente grâce à ces variantes.
C'est quelque chose qui manque aujourd'hui chez les managers, chez les DRH, globalement, si on prend un peu de recul. Cette capacité à trouver, réfléchir à des plans B, des plans C. On est plutôt calibré à se dire on va dans cette direction et on ne réfléchit pas à si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors déjà, on est calibré pour agir, produire, parce que lorsque vous réfléchissez, vous ne produisez pas. Donc déjà, c'est pas vu d'un bon oeil. Il faut savoir qu'un ordre d'opération, c'est un processus, quand on travaille sur une brigade à 5000 hommes, de 12 heures. Sur les 12 heures, c'est 10 heures de réflexion, 2 heures de rédaction. Et on sait que l'ordre d'opération, quand il sortira de l'imprimante, il sera faux. Donc, effectivement, cette réflexion que l'on peut avoir et ce variantement que l'on peut proposer, c'est pour moi la clé, qu'on soit dans le monde VUCA, et maintenant vous savez que VUCA est mort, dans le monde banni qui s'annonce pour la décennie.
Il faut que vous fassiez de la formation, là. Il faut former les DRH. Vous le faites déjà ou pas ? Les managers ?
Alors, là, pour être formateur, sur
votre expérience,
être patient.
Ça, c'est peut-être une qualité.
Je ne vous cache pas qu'effectivement, j'aime à transmettre, en revanche, effectivement, cette expérience et cette passion du management.
Ça doit être très utile. Benoît Courtin, il nous reste une minute pour mieux savoir quel manager vous êtes. Vous allez être. Marianne nous amène tout de suite la boîte du DRH d'Happy Boulot. Je vous invite à piocher deux papiers. Vous connaissez l'exercice, ce sont deux petites phrases à compléter. On va commencer avec la première que vous avez donc tirée au sort.
Ah. Dans ma boîte, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir.
D'accord, allez, hop, on prend directement le deuxième papier.
Dans ma boîte, je décrète un jour férié.
Ah.
Ce serait le jour de...
C'est fictif, hein. Vous n'allez pas être obligé de le faire en sortant du plateau.
Allez, le jour de l'amour.
Le jour de l'amour. Ah, très bien.
Quand on manage des personnes, il faut les aimer.
Ouais. Et il faut pas que une relation professionnelle, les relations d'amitié aussi.
Non, c'était ce qu'on s'était dit depuis le début des années 80 jusqu'à la fin des années 90, le fameux management horloger. Et oui, on a le droit d'avoir des émotions et on a le droit d'aimer ses équipes.
On va terminer cette interview là-dessus, c'est tellement magnifique. Merci beaucoup Benoît Courtin, DRH de l'usine Bosch de Rodez, d'avoir joué le jeu et d'avoir été avec nous dans Happy Boulot. Tout de suite, Camille appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on appelle tout de suite Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, pour répondre à la question suivante. Écoutez bien, je suis manager d'une équipe de 4 personnes et mon meilleur élément, celle que je considère comme mon bras droit, me demande de la soutenir pour une rupture conventionnelle auprès de la RH. Est-ce que je prends un risque à lui dire non ? Écoutez.
Oui, vous avez parfaitement le droit de dire non, mais il faut nuancer parce que si l'un des membres de votre équipe demande à partir, même dans le cas d'une rupture amiable et pas en conflit, c'est qu'il y a une raison. Et j'en vois au moins 3 qu'il faut sagement analyser avant de décider. La première, c'est une reconversion ou une réorientation personnelle, un projet en dehors de l'entreprise. Et dans ce cas, vous ne retiendrez pas la personne qui veut partir et il vaut peut-être mieux accompagner une rupture conventionnelle en assurant une transition harmonieuse pour le remplacement de cette personne importante pour vous dans l'équipe. Deuxième motif, alors là, pour le coup, vous ne savez pas, il y a un grand mystère autour de ce départ, il y a même une petite volonté de dissimulation. Ça peut être un projet concurrent, ça peut être aller à la concurrence, et dans ce cas, non seulement vous avez le droit, mais vous avez le devoir de dire non, parce que vous êtes manager, vous devez prendre en compte les intérêts, le bien-être et les demandes de vos équipes, mais vous devez aussi veiller, avoir le souci de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise que vous représentez. Et enfin, la troisième raison, eh bien, elle est beaucoup plus indistincte, elle est plus incertaine. Ça peut être un désarroi, ça peut être un mal-être, quelque chose qui s'exprime mal. Et dans ce cas, il faut aussi un accompagnement, il faut discuter, ouvrir le dialogue, éventuellement avoir recours au RH avant de prendre la moindre décision.
Merci Valérie Mehmout Hayat, associée fondatrice de HMS Avocat. Continuez à nous écrire sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On répond toutes les semaines dans notre émission à vos questions avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
Le sujet de la semaine devrait vous plaire, on l'espère. Hein. Peut-être même vous donner des idées, pourquoi pas. 10 minutes pour parler de l'importance des pauses dans votre carrière avec nos deux invités qui sont venus témoigner. Bonjour Rami Bétier.
Bonjour Erwan.
Vous êtes ex-directeur exécutif de Carrefour France et désormais, ou très bientôt, c'est imminent, hein, vous serez directeur général des supermarchés britanniques Morrison. Et entre ces deux postes, donc qui sont des postes très importants, avec beaucoup de responsabilités, vous avez fait une pause. Vous allez nous raconter ça. Face à vous, Léa Zaslavski, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Make Sense, association qui permet aux entrepreneurs, aux citoyens même, d'agir pour une société durable et inclusive. Pour qu'on comprenne bien, peut-être pour commencer, vous avez eu besoin, chacun, de quoi? De faire un break. Léa, vous êtes arrêtée de travailler pendant 8 mois en 2021. C'était pour prendre l'air, pour voyager, pour voir d'autres choses?
Je me suis arrêtée, en effet, en 2021. Alors, c'est après le Covid, et je pense que c'est pas non plus complètement anodin. Alors que moi, ça faisait 12 ans que j'avais cofondé un écosystème associatif qui a pour objectif, comme vous le disiez, de redonner le pouvoir d'agir à tous et de créer une société durable et inclusive. Et donc, nous, on se donne aussi pour objectif d'être cohérent entre nos méthodes managériales, l'organisation qu'on a et la mission qu'on a en extérieur dans le monde qu'on veut promouvoir. Ouais. Donc on a en fait en interne une forme d'autogestion et de responsabilisation aussi des équipes qu'on voulait être aligné aussi avec notre projet de société. Et donc après toute cette période de Covid, de moments où il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de tensions, je me suis rendu compte que c'était aussi important de pouvoir aussi mettre en cohérence mes aspirations personnelles avec aussi un temps dédié pour faire tout ce que j'avais pas forcément eu le temps de faire depuis 12 ans.
Rami Bétier, ex-directeur exécutif de Carrefour France, vous, c'est le même scénario, on est sur quelque chose de complètement différent. Ce sont les choses différentes qui vous ont poussé à peut-être faire un break.
Alors peut-être un peu différent parce que je suis moins jeune. Moi, j'ai 28 ans de carrière dans la même boîte. Et pendant mes 28 années de carrière, j'ai travaillé dans 7 pays différents, dont la France.
Donc chez Carrefour.
Chez Carrefour. Et donc, je n'ai jamais osé, ni demander, ni penser à faire une pause, ne serait-ce que de quelques semaines ou de quelques jours. Et c'est vrai, entre deux pays, parce que moi j'ai travaillé dans 6 pays étrangers, entre deux pays, des fois, je finissais le vendredi au début de l'après-midi pour commencer le lundi matin de l'autre côté de l'océan, par exemple. Et donc, je n'ai jamais osé ni demander, ni penser même à faire une pause.
Mais ça veut dire qu'on se met des barrières, parce que vous dites que vous n'osez pas.
En fait, on se met des barrières, on appréhende, etc. Jusqu'au moment où ça m'est venu à moi, ce n'est même pas ma décision, en fait. Donc, en fait, ma décision, c'est de démissionner de mon ancienne société. Et en attendant ma prise de poste, qui commence d'ailleurs, qui
pourrait être
lundi.
Ouais, c'est imminent.
Lundi prochain. Donc, j'ai 2 mois de pause.
Ouais.
Et c'est vrai, j'appréhendais cette période-là parce que je dis mais, etc. Et c'est vrai, au moment où j'ai donné ma démission, je ne pouvais pas dire où est-ce que j'allais atterrir. Et j'ai eu cette avalanche de messages d'amitié, de la famille, de mes amis, des gens que je connais, des gens que je connais pas vraiment. Et c'est vrai, moi qui appréhendais, on est en fait, est-ce qu'on est trop seul quand on n'est plus à un poste important? Non. Eh ben, j'étais pas seul et j'ai passé des heures, pour ne pas dire des jours, à répondre à tous les messages d'amitié que j'ai reçus. Mais, donc c'était ma première bonne surprise.
Donc 2 mois?
Deux mois de pause.
Mais c'est assez, ça, deux mois? Ça vous donne pas envie de refaire des pauses plus tard, là, dans votre carrière?
Sincèrement, je suis en fait entre cette excitation de commencer ma nouvelle mission, parce que je commence quand même à apprendre ce qu'il faut apprendre sur la culture.
On retrouve de l'envie?
Après une pause britannique, ouais. Bon, c'est quelque chose que je sais faire. Retourner des situations, c'est ma passion. C'est tout ce que je sais faire. Et puis aussi l'envie de continuer à bénéficier de ces semaines de bonheur.
Bon, faire des pauses dans une carrière, Rami, comme Léa, c'est quoi? C'est aussi prendre du recul, retrouver de l'énergie, de la motivation. On voit que là, vous êtes surmotivé. Hein. Je pense que j'espère que les équipes de chez Morrison sont prêtes, hein, parce que.
Moi, je crois que c'est absolument essentiel. En fait, d'ailleurs, moi, j'ai vu pas mal de personnes à un moment être fatiguées de leur job, ne plus en pouvoir, et en fait, arrêter. Et il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire qu'en fait, soit on arrête et on prend du temps, on trouve un autre job. Et cette volonté aussi de pouvoir se dire il y a une alternative à l'arrêt qui est de prendre une respiration, de prendre du temps pour se régénérer, moi c'était aussi quelque chose qui était très important pour moi.
Parce qu'on a quand même beaucoup de vacances en France hein, quand on compare à l'étranger. Malgré tout, ça ne suffit pas. C'est différent, c'est un concept différent de faire vraiment une pause, de s'arrêter plusieurs mois, de prendre 15 jours, 3 semaines de vacances.
En fait, on commence à s'aérer l'esprit vraiment au bout de 2-3 semaines. Moi par exemple, l'objectif de ma pause c'était d'être improductive. En 12 ans, j'ai optimisé tout mon temps, j'étais extrêmement productive et j'avais qu'une envie, c'était de ne rien planifier pendant 4 mois. Et ben au début, c'est un peu stressant, on panique un peu et en fait après ça fait un bien fou et on se rend compte qu'en fait on se régénère et que moi je suis arrivée avec beaucoup plus d'énergie pour repartir pour les 10 prochaines années que si j'avais continué sans me reposer.
Vous, Rami, ne rien faire
Alors, je peux pas dire je n'ai rien fait, oui. Mais c'est vrai que cette période de 9 semaines de pause, ça m'a permis de me retrouver, de me ressourcer auprès de ma famille. J'ai pris une semaine de vacances avec mon fils aîné. Et ça, j'avais jamais pu le faire avant. Ouais. On est parti en tête à tête une semaine. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça lui a permis aussi de me redécouvrir. Donc, c'était super sympa. Une semaine aussi avec mon épouse. On est parti à Marrakech. C'est vrai. Alors, on avait des vacances et on prenait les vacances. Sauf que quand vous êtes en vacances, vous avez toujours un chiffre par là, un incident par-ci.
Un mail. Donc, voilà.
Quand vous êtes responsable d'une boîte de 80 000 personnes, vous êtes toujours connecté quelque part, même si vous essayez de faire des coupures. Et là, c'était vraiment la coupure totale.
Mais je vous écoute et j'ai la sensation que l'aspect personnel, la dimension familiale, elle est quand même très importante dans cette pause. L'objectif, c'est de renouer aussi avec votre vie personnelle, votre vie privée. C'est pas seulement de retrouver de l'énergie au travail.
En tout cas, ça a été mon expérience. Comme je vous disais, les amis, la bonne surprise avec les amis. Et les gens qui m'écrivaient sans même savoir où est-ce que j'allais atterrir. Et deuxièmement, effectivement, ce moment que j'ai voulu passer, j'ai eu le bonheur de passer avec les miens. Et ça, pour moi, ça restera mémorable.
C'est faire le point sur ses envies aussi. Savoir, voilà, quand on a la tête dans le guidon, cette expression, elle est très parlante, on ne sait plus très bien pourquoi on travaille, est-ce qu'on a envie de continuer là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous intéresser?
Moi, je crois que c'est autant nécessaire pour soi, mais c'est aussi en fait une opportunité pour l'entreprise. Et c'est important pour soi, justement, pour se redonner de l'énergie. Mais par exemple, chez Maxence, nous, on a plusieurs personnes, à part moi, qui ont fait des pauses. Et pour chacune d'entre elles, il y en a, c'était des vacances, il y en a d'autres, c'était des projets associatifs, c'était parfois des projets politiques, c'était aussi essayer d'autres choses qu'ils n'avaient pas fait. Et en fait, ils sont revenus en étant encore plus inspirés, en étant encore plus outillés, et donc en étant en réalité beaucoup plus performants pour notre mission.
Et ça, il faut en prendre conscience quand on est patron, parce que vous êtes tous les deux des chefs d'entreprise. Et c'est vrai que souvent, le frein, c'est aussi le patron. C'est on se dit, quelle image je vais donner à mon supérieur si je lui demande un congé sabbatique ou un mois ou deux de pause? On se dit, ça va me pénaliser dans mon parcours. Est-ce que vous, en tant que patron qui vous-même avez fait des pauses, vous avez plutôt tendance justement à encourager les salariés qui vont vous le demander?
C'est ce que je compte faire naturellement. Ouais. Il y a aussi une évolution culturelle qui s'est produite dans ma mentalité, dans ma manière de manager. Maintenant, moi, je pense que les vacances, c'est plus une prise de recul, 2 semaines, 3 semaines de vacances. Je pense qu'une pause de plusieurs mois ou de plusieurs semaines, c'est une prise de hauteur. On a plus de facilité, plus de temps à lire un livre qu'on aime bien, à regarder une série à la télévision, etc. Donc là, effectivement, c'est une prise de hauteur et c'est vrai, ça permet de vider et ça laisse la place à remplir et faire la mission à venir.
Vous, Léa, chez Make Sense, même question.
Tout à fait. Nous, on a, je ne suis pas la seule du tout à avoir fait ça. On a ouvert la voie, du coup, moi et une autre des cofondatrices, à faire une pause chacune et à rendre en fait permissif le fait de pouvoir demander ce type de congé. C'était extrêmement important pour nous de donner l'exemple, de montrer qu'on pouvait le faire et aussi, justement, de pouvoir s'assurer que ce soit des choses qui... En fait, pour nous, c'est un vrai combat de société de se dire, en fait, on n'est pas des objets uniquement là pour être productifs au travail. On est des êtres humains qui aspirons aussi à un épanouissement au travail et en dehors. Et on respecte aussi notre cycle d'être humain en prenant en compte ces temps-là.
Et juste pour terminer, donc côté entreprise, puisque vous êtes des chefs d'entreprise, comment on gère d'un point de vue RH un salarié ou même un patron, un associé qui veut faire une pause? Il faut quand même le remplacer. S'il part 6-8 mois,
il faut
aussi se préparer à ça.
Léa l'a très bien dit. Ouais. Je pense que la composante, l'asset le plus important de la société, c'est la personne. Et moi, j'ai suggéré de transformer le mot ressources humaines en réussite humaine. C'est toujours RH. Et donc, la réussite humaine, si la réussite humaine passe par la réussite personnelle du collaborateur, est-ce que cela passe par une pause? Eh bien, que la pause soit telle. Et donc, à partir de là, on passerait d'une ressource pour exploiter donc les ressources humaines, donc à la réussite humaine. Ça restera toujours RH, donc ça changera pas beaucoup les panneaux, mais c'est un changement, c'est une évolution de mentalité qui signifie exigence et bienveillance. Et ce que je répète toujours à mes managers, c'est deux doses de bienveillance pour une dose d'exigence. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les entreprises qui font les meilleures performances.
On fait de la philosophie aussi maintenant dans cette émission. Et moi, j'adore ça. Un dernier mot.
Oui, en fait, on se rend compte que les entreprises arrivent à s'organiser avec les congés parentaux, maternité, paternité. Oui. Donc en réalité, souvent on dit « Ah, mais ça ne va pas être possible ». En réalité,
on est outillé.
Et
désormais,
on peut faire des congés maternité, paternité sans enfants et justement que ce soit des espaces épanouissants.
Merci pour cet éloge de la pause avec vous, Léa Zaslavski, cofondatrice de Make Sense, Rami Bétier, ex-directeur exécutif de Carrefour France, et donc à partir de lundi, vous serez directeur général des supermarchés britanniques Morrisons. On vous souhaite bonne chance pour ces nouvelles missions. J'espère, en tout cas après ce que vous avez dit, je pense que vos collaborateurs seront assez heureux avec vous. Merci beaucoup. Merci. Pour cet éloge de la pause. C'est l'heure de la carte blanche et on va faire l'éloge de la sieste désormais.
Je peux rester. Happy Boulot, carte blanche.
Et nos invités restent, ils vont écouter ça. Aujourd'hui, c'est Yannick Mercieris qui déculpabilise la sieste au bureau.
Et si on faisait la sieste au travail? Ce serait pas un truc de ouf, ça? Bon, pourquoi je te parle de sieste?
I don't know.
Parce que plus d'un Français sur deux reconnaît avoir eu des nuisances au travail à cause du manque de sommeil. Et cette somnolence diurne, en fait, ça c'est le mot compliqué pour dire coup de barre, t'inquiète.
Ok.
Ça nous donne des difficultés à gérer notre temps, ça nous rend plus irritables et surtout, on est moins efficace. Et on parle de quel genre de sieste? Facile. Une sieste de 20 minutes entre 13 et 15, faut pas abuser. En position assise ou relax, tranquille. L'objectif, c'est quoi? On n'attaque que le sommeil léger. On n'attaque pas le sommeil profond ni paradoxal. Parce que sinon, on ressort tout fripé et c'est pas du tout ce qu'on veut. L'objectif, en sortant de cette petite sieste, c'est qu'on soit plus vigilant, qu'on ait plus de mémoire, qu'on soit plus productif. Bref, qu'on soit une meilleure personne.
Happy Boulot, le labo RH.
On teste l'innovation de la semaine en 4 minutes avec notre invité qui vient de nous rejoindre. Bonjour Alexandre Grenier.
Bonjour Yorwan.
Co-fondateur de Workello, une solution pour la prise de poste et le départ des collaborateurs. Ce qu'on va appeler, pour ceux qui préfèrent l'anglais, l'onboarding, l'offboarding.
Exactement.
Vous nous en dites plus?
Exactement. Donc, on a développé une solution en mode SaaS qu'on met à disposition des entreprises pour gérer l'arrivée et le départ de manière optimale. Donc, c'est une solution digitale qu'on déploie auprès de l'ensemble des collaborateurs.
Parce que c'est mal géré aujourd'hui?
Et oui, il y a seulement 12% des collaborateurs qui sont satisfaits de leur intégration, par exemple. Donc, il y a une vraie marge
de progression.
Très peu. Et le digital, justement, permet de créer des parcours engageants, ludiques aussi. Et donc, les entreprises sont friandes de ce type de technologie.
Ouais. On va en citer quelques-unes. Alexandre, chez cofondateur de Workello, vous travaillez avec des grands comptes, hein, EDF, Saint-Gobain, Mazar, par exemple. Hein. Pourtant, on pourrait se dire que ce sont les mieux à même de gérer, non? L'accueil, l'arrivée des salariés, ce sont les plus outillés, ceux qui ont le plus de moyens, le plus d'expérience. En réalité, ce sont ces entreprises-là qui font appel à vous.
Et oui, parce que pour réaliser un vrai onboarding de manière efficace, il faut gérer à peu près 150 tâches différentes. Ça représente une grosse charge de travail. Et quand on le gère sur un grand groupe, sur des milliers de collaborateurs, vous imaginez bien la charge de travail que ça représente.
Oui.
Et donc, du coup, le digital comme nous, ça permet justement de fluidifier l'ensemble de ces processus-là et de proposer une expérience optimale pour tout le monde.
Avec de l'intelligence artificielle, forcément, hein, aujourd'hui, c'est parti.
On a intégré cette partie intelligence artificielle justement dans le cœur aussi de notre produit. Ça a été une innovation qu'on a mis en place cette année pour, sur différents aspects, permettre de gagner du temps et d'améliorer l'expérience pour l'ensemble des acteurs.
Bon, typiquement, quel conseil vous apportez généralement? Qu'est-ce qu'il y a dans cette solution, très concrètement?
Alors, sur la partie pré-boarding et onboarding, du coup, pré-boarding, c'est avant le premier jour, onboarding, c'est une fois qu'on est dans l'entreprise. L'important, c'est de communiquer au bon moment de manière cadencée. Donc là-dessus, on va le permettre, nous, à travers notre solution, de le faire de manière optimale et de manière aussi automatisée, mais avec des messages qui font humains. L'objectif pour nous, en fait, c'est de décharger les RH sur l'ensemble des tâches un peu chronophages qu'ils ont à faire, notamment sur la saisie administrative. Vous savez, des fois, c'est des mails qu'on s'envoie à droite à gauche. Donc là, l'objectif, c'est de faire en sorte de tout centraliser ça dans la plateforme. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle nous aide beaucoup aussi à collecter toutes ces informations, s'assurer que c'est bien les bons documents, que l'ensemble des informations sont bien renseignées, signature électronique après, derrière, etc. Donc ça permet vraiment de fluidifier toute l'intégration.
Et gagner du temps.
Et puis proposer un parcours engageant, parce que comme on disait tout à l'heure, le chiffre de 12% des collaborateurs qui étaient satisfaits seulement de leur intégration, on voit nous des super taux de performance justement et de satisfaction des collaborateurs. Et ça améliore l'engagement en fait dans la durée évidemment.
Et rapidement, mais pareil, quand on quitte l'entreprise, là on est rarement bien accompagné. Vous, votre solution permet aussi d'améliorer tout ça?
Exactement. En fait, sur la partie off-boarding, pareil, même principe, il y a tout un parcours d'accompagnement qu'on va créer. On va aussi guider l'ensemble des acteurs autour du collaborateur, le manager par exemple, et le RH dans le rôle qu'il a à jouer dans l'accompagnement au départ.
Je repense au confinement. Ça a été utile, votre solution, pendant cette période où parfois on faisait de l'onboarding à distance et pendant 2-3 semaines, un mois, on voyait même pas ses collègues en fait. On les voyait qu'en visio.
L'objectif de notre solution, c'est de digitaliser. Mais l'humain reste quand même à une place importante parce que c'est des moments qui sont importants dans l'arrivée et le départ, c'est des moments qui sont humainement importants, donc ça dégage du temps en fait pour les managers et les RH pour qu'ils se concentrent sur l'humain. Et en effet, suite au Covid, il y a un vrai besoin des entreprises de processer tous ces parcours, et donc l'adoption d'outils comme nous a permis justement de mettre en place ces parcours de manière efficace.
Et donc on peut aujourd'hui plus facilement aussi recruter à distance sans avoir le collaborateur forcément qui va venir faire son premier jour
dans
l'entreprise.
Quand on a une entreprise multisite par exemple, on doit intégrer des gens partout en France.
Quand on recrute à l'étranger,
eh bien on veut mettre en place justement des parcours bien précis en fait pour chacune des entités, et du coup c'est important justement d'avoir un parcours qui soit bien cadencé et bien écrit pour y arriver.
Et voilà, pour les patrons, patronnes, les managers, les RH qui nous écoutent, s'ils sont un petit peu en galère avec ça, ils peuvent aussi faire appel à vous. C'était l'innovation qu'on vous présentait dans Happy Boulot. Merci beaucoup Alexandre Grenier, cofondateur de Work Hello, d'être venu dans notre émission. C'est tout pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude. Vous retrouvez dès maintenant cette émission, ces interviews en replay sur le site RMC BFM Play, en podcast aussi. Abonnez-vous pour recevoir tous les week-ends le nouveau numéro d'Happy Boulot. Merci à Flo et Alban qui sont aux manettes en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. On reste en contact bien sûr avec notre adresse qui va s'afficher en bas de l'écran pour ceux qui nous suivent à la télévision, happyboulot@bfmbusiness.fr. On se retrouve le week-end prochain. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.